Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Et c'est parti, vous prenez donc la parole sur RTL. On retrouve Christophe. Donc Christophe, on parlait au tout début de la vaccination obligatoire des soignants. Dites-moi où vous en êtes.
Bah, où j'en suis, bah, nous, comme on est obligé, on va le faire.
Enfin, vous êtes kiné, hein?
Oui, on est profession de santé tous les deux. On a pris rendez-vous, on va faire notre vaccin. Vous savez, on est pas des bons républicains, vu qu'on n'est plus dans une république, mais on est des bons citoyens, donc on va le faire. Mais on allait le faire avec le Sanofi qui arrivait. On pensait avoir le choix sur un vaccin qui était toujours utilisé pour la grippe, pour nos enfants. Comme il n'y avait pas le feu au lac, comme il n'y avait pas des morts qui jonchaient toutes les rues, et même en Angleterre d'ailleurs, hein, depuis un mois, la courbe, elle ne bouge pas. Mais là, il y a eu un mouvement de panique. On ne peut pas être plus... Enfin, on doit obéir, hein. Si le président dit on se fait vacciner.
Mais vous êtes soignant, Christophe, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas... Enfin, est-ce que vous avez imaginé peut-être un jour pouvoir contaminer l'une des personnes que vous soignez?
Je vous rappellerai d'abord, comme le rappellent tous les journalistes qui sont un peu plus calmes, qu'il n'y a eu aucun cluster déclenché par des professionnels de santé. Donc on prend toutes les précautions, malgré que notre gouvernement nous ait dit que le masque ne servait à rien. On était informés par des amis qui connaissaient la Chine, donc on avait les masques avant les gens. Enfin, on avait presque des slips sur la tête vu qu'il n'y en avait pas. Donc cette eau pauvre qu'on nous jette...
Ça, c'était au tout début de l'épidémie.
Non, mais oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on jette à la pâture des gens qui ont été les premiers au contact. Moi, j'ai eu le Covid. 50% de mon poumon qui était touché. J'ai conseillé à des grands-mères. Moi, j'ai conseillé à des gens à risque, que je fais tous les jours dans ma patientèle, d'aller se faire vacciner. Monsieur Macron a dit c'est une guerre et il n'emploie que l'arme nucléaire. La phrase qui revient, c'est il n'y a que le vaccin. Oui, le vaccin est une arme très importante qu'il faut d'abord utiliser sur les gens à risque. Et après, il existe aussi des soins, pas des traitements. Est-ce que vous êtes au courant qu'on peut soigner un malade avec de l'oxygène chez lui, madame, en lui mettant un saturomètre? Et ça enlèverait un tiers dans les réanimations. Alors quand notre président, devant tout le monde, dit « Messieurs les professionnels de santé », il va falloir, je ne sais plus si c'était sa phrase, assumer, prendre vos responsabilités. Je rappellerai quand même que le même président, par la voix de son ministre de la Santé, a dit on va rajouter 6 000 lits pour qu'il y en ait 12 000. Et on continue de baisser. Donc en gros, tout est de notre faute. Les Français, ils ont été très sages, tous. On a obéi, on est resté chez nous, on a moins bossé, rien. Et maintenant que nous, on a obéi, on va encore nous dire, surtout à nous les soignants, vous savez madame, je connais plein d'infirmiers, plein de soignants, les sages-femmes sont les petites fées à domicile des petites mamies. Elles vont tout arrêter. Parce que là, ce qu'a dit le président, enfin nous cracher dessus comme il a fait, c'était facile de nous applaudir il y a quelque temps. Ces jeunes filles-là, elles n'ont pas été augmentées, elles nous traitaient d'inconscients. Bah, madame, on n'est pas inconscients. Il y a du gel dans mon cabinet, les gens viennent avec leurs serviettes et j'allais me faire vacciner. Mmh. Il n'y avait aucune urgence là.
Maintenant, donc vous êtes senti stigmatisé alors qu'il aurait fallu vous convaincre.
Mais pas stigmatisé. On a été jeté au loup, madame. Le mot stigmatisé, je ne peux plus l'entendre.
Quand pourquoi on m'a dit qu'il voudrait mieux... Quel est le problème avec ce mot-là?
Est-ce que vous me laissez une minute pour vous l'expliquer?
Bien sûr.
Non. Alors je vais le faire vraiment très vite. Le nouveau mot, c'est de dire « Ah oh non, on ne peut pas, les gens malades, on va les stigmatiser. » Quand des gens, avec un peu de raison, se sont dit « Tiens, pas le problème, mais les gens en danger sont les gens à risque. » D'abord, on s'est tous isolés, et certains ont dit au deuxième isolement, on devrait peut-être plus isoler les gens à risque, et leur permettre d'aller au cinéma. Mais vous vous rendez compte, si vous faites ça, les mettre dans des créneaux, vous les stigmatisez. Par contre, nous, on n'est pas stigmatisés, si on n'est pas vacciné ou si on n'a pas notre QR code, d'être dehors. Et on traite les mamans qui ont des gosses de 12 ans, on va vacciner des gosses de 12 ans, et s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas faire. Alors madame, je rappelle quand même, parce qu'aucun journaliste ne reprend cette indication, quand on nous dit que le vaccin est obligatoire, oui, moi j'ai vacciné mes enfants pour la polio, la diphtérie, mais allez sur internet et regardez le taux de létalité et de mortalité. C'est comme si on comparait une Mercedes avec un tracteur. Donc moi, si le Covid était ultra à ce point dangereux, il l'est, mais au même taux de létalité, je le ferai tout de suite. Les mamans ont quand même le droit de se poser des questions. Surtout qu'il y a des virologues qui leur ont dit pendant tout le confinement, non, un vaccin aussi vite, c'est impossible. Moi, je reprends les phrases qui ont été dites à la télé, hein, par des virologues.
Et même il y en a certains qui disent, il y en a toujours quelques, vous savez bien, on a vu le...
Non, mais
les scientifiques ont été extraordinairement... Non, mais pardon, mais là, à ce moment-là, les scientifiques ont été extraordairement divisés sur cette question depuis le début.
Bon, donc il y en a qui entendent certaines choses et d'autres qui entendent d'autres. Le président de la République, quand Trump a dit qu'il aurait vite un vaccin, il dit qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Mais quand vous racontez toujours le blanc et le noir et son contraire. Comment voulez-vous que les gens n'aient pas d'hésitation ? Et en plus, on les classe anti-vax.
Mais ça, moi, je l'entends tout à fait, l'hésitation.
Oui, mais moi, je vous le dis, madame, je ne suis pas anti-vax. J'ai vacciné mes enfants, je suis vacciné pour l'hépatite. Mais j'avais envie de pouvoir attendre Sanofi. Maintenant,
pourquoi vous vouliez attendre Sanofi ? Pourquoi vous avez plus confiance en Sanofi ? Parce que c'est, un vaccin plus traditionnel ?
C'est un vaccin plus traditionnel parce qu'il n'y a aucun virologue qui est capable de vous dire. Et le risque est de zéro. Comme il n'y en a aucun, à contrario.
Mais il n'y a jamais de risque zéro. Mais il n'y a jamais de risque zéro sur un vaccin, Christophe. Vous êtes soignant, vous le savez, ça.
Je vais vous le dire autrement. Je fais des examens, admettons, pour mon intestin en ce moment. Et j'arrête pas de nous dire qu'on travaille sur ces vaccins, sur l'ARN pour le cancer. Si on me dit que j'ai un cancer, mais je fais n'importe quel truc ARN qu'on veut, même s'il y a un petit risque. Mais c'est la réponse donnée, ce qu'on propose comme moyen. Je veux dire, on va dire à des gens qui ne risquent rien, je rappelle les enfants, prenez un vaccin où on n'est pas sûr à 100%, alors de toute façon, si vous le prenez pas, vous risquez rien. Alors vous allez me parler du bien collectif, je le dis avant que vous coupiez. Mais alors, où est le bien collectif alors qu'on va rendre un vaccin obligatoire pour des gens sains? Et on est incapable de le rendre pas obligatoire, mais d'inciter plus les gens qui sont en danger. Mais ça fait un an et demi.
Le problème, pardon Christophe, ah, c'est gentil, merci.
Non, mais je vous laisse parler, je ne veux pas passer pour un fou furieux.
Le problème, c'est que plus le virus va circuler, plus il va muter, plus il sera contagieux, plus il sera virulent. Donc à un moment, il faut casser ce système.
Ah, alors là, je peux vous reprendre d'autres virologues, mais c'est pareil, c'est comme les avocats, les médecins, vous mettez tout.
Il y a mais non, mais moi j'apporte la contradiction, je suis là pour discuter avec vous, Christophe.
Bien. Mais moi j'écoute aussi, et j'ai un peu travaillé là-dessus, à mon modeste niveau, je suis kiné avec des copains médecins. Beaucoup nous ont dit qu'il y aura une immunité collective par le vaccin et une immunité naturelle si les gens qui n'ont pas de risque le prennent. Si personne ne le chope, comment voulez-vous qu'il y ait une immunité naturelle ? Alors que moi, ma fille, elle l'a eu 25 ans, elle n'a rien eu. On a tous des gens autour de nous, et heureusement, en majorité, qui l'ont eu et qui n'ont rien eu. Ces gens-là ont fabriqué une immunité naturelle. Mais là, on veut la faire que collective par le vaccin. Et puis, pourquoi on veut la faire ? Alors que là, le variant, il sera toujours temps d'agir. Moi, madame, si vous me dites demain que les hôpitaux en Angleterre, en Espagne se remplissent, ce n'est pas le cas. Enfin, les courbes sont plates par rapport au...
C'est l'effet de la vaccination, Christophe.
Ça y est, ça je savais qu'on dirait. Alors, je vous rappelle quand même...
C'est quoi d'autre, sinon ?
Mais non, mais les Anglais, ils sont vaccinés. 10% on est de moins qu'eux. Mais ils continuent quand même. Enfin, comment dire ça ? C'est pas pour ça qu'il y a des morts partout. Donc, il le faut, le vaccin. Mais on a vacciné 80% des gens à risque, madame. Est-ce que vous pouvez entendre ? J'en ai parlé avec une grand-mère dans mon cabinet ce matin. Une brave maman italienne qui dit « Je ne veux pas me faire vacciner, je reste chez moi ». Est-ce qu'on peut entendre que des gens n'en ont pas envie ? Et le respecter, alors comme ils n'en ont pas envie, non mais on va prendre le raisonnement inverse. Vous n'en avez pas envie ? Eh bien, on va obliger tous les enfants et tout le monde à se faire vacciner. Après, un président qui est courageux pourrait dire « Vous avez encore 3 semaines pour tous vous faire vacciner. Si vous ne voulez pas, c'est votre choix, mais il faudra l'assumer. Nous, on revit. C'est ce qu'on fait dans une famille. Hein. Quand un enfant, selon il y a une personne sur 5 qui veut rien faire, même si on l'aide, à un moment, on dit « t'assumes ton choix ». Mais en France, on ne peut pas, parce que je reprends votre terme, on stigmatise. Donc moi, je vais vous dire, madame, et très calmement, je ne suis pas en colère contre vous, mais là, ce qu'on a suivi depuis une semaine, et ce qu'on voit sur Facebook, moi, j'ai été traité, les soignants qui ne se vaccinent pas, un chauffeur de bus ivre scolaire. Alors je vais vous dire, les chauffeurs de bus scolaires, comme dit ce brave monsieur du CNRS, eh ben, on va rentrer chez nous, on va la travailler en campagne, et quand on peut, on ira vivre ailleurs et on ne soignera plus. Et je souhaite bon courage aux gens qui auront pu ces petits soignants pour aller chez eux. Parce que là, vraiment, on est en train de monter une cabale. Et après, vous verrez, c'est nous les soignants, mais les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ce qui est quand même un droit, on vous inocule quelque chose. Et madame, je vous jure qu'il y aura un fléau comme World War Z ou comme dans le film Je suis une légende, je suis une légende, je comprendrai qu'on le mette en obligatoire. Je comprendrai. Mais là, ce n'est pas le cas.
Bon,
mais
on a bien entendu vos arguments, en tout cas, hein, Christophe.
Oui, j'espère que
vous avez pu les développer quand même. Hein.
Ouais, excusez-moi, bon, vous savez quand on fait quasiment Et je vous remercie de m'avoir laissé la parole en tout cas.
Merci, et je vous ai pas insulté. Voilà. On a fait ça calmement.
Non, du tout, on a fait ça calmement entre des gens qui n'avaient pas le même avis apparemment. Voilà.
Et ben, c'est ça l'essentiel, c'est de pouvoir débattre. Merci Christophe.
C'est pas comme ça partout. Je vous remercie, madame. Au revoir.
On fait une petite pause, on poursuit cette conversation avec Laetitia qui est aide-soignante à Limoges.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robillard.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robillard.
Et on poursuit ce débat autour de la vaccination obligatoire des soignants avec Laetitia. Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Bon, Christophe a raccroché, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Moi, je suis soignante. Je travaille dans un service de soins intensifs où il y a plein de personnes qui sont très fragiles. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a mis Emmanuel Macron en place. Il faut qu'on soit tous vaccinés. Il faut que les soignants soient tous vaccinés. Et s'il faut en passer par là pour qu'ils le fassent, moi, je suis d'accord avec lui.
Mmh. Voilà. Eh ben, restez avec nous, Laetitia. Je vous présente Roger. Bonjour, Roger. Est-ce que vous m'entendez, Roger ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous venez d'entendre Laetitia, elle nous dit il faut le rendre obligatoire, de toute façon, il faut que tout le monde soit vacciné. Vous êtes contre le principe d'un vaccin obligatoire. Dites-nous pourquoi ?
Parce que votre premier auditeur, Christophe, a dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Nous sommes soi-disant en démocratie. Donc, en démocratie, on a les droits de la démocratie, hein, c'est-à-dire de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, d'autant plus que, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de contradictions dans tout ce qui est dit au sujet de ce Covid depuis un an et demi, hein. La chose qui est sûre, c'est que, là encore, c'est un très gros enjeu financier pour les laboratoires et pour les médecins.
Hein ? Non, mais il y a peut-être un enjeu humain quand même, Roger.
Non. Côté,
oui, Laetitia.
D'un autre côté, si on ne paye rien, on ne fera rien. Il faut bien essayer des choses.
Qu'on ne me parle pas des enjeux humains.
Ah bon ?
Parce que... la chose qui est sûre, c'est que c'est un enjeu financier, d'une part.
Mais tout dans la vie est un enjeu financier. Les feux rouges, les PV, les
Non, madame, ne me dites pas ça, madame. Parce que quand on oblige les gens à mettre une ceinture de sécurité dans une voiture, on ne les oblige pas à se faire injecter un produit dont on n'est pas sûr du tout.
C'est pas le premier vaccin obligatoire, il y en a d'autres. Hein,
c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire, Laetitia. Roger, les vaccins obligatoires, il y en a d'autres. Vous êtes content aujourd'hui que la polio ait disparu. Vous êtes content que la variole ait disparu.
Exactement.
Et alors
ce n'était pas du tout les mêmes vaccins. D'abord, c'était des vaccins contre des.
Mais vous dites ça parce que c'était il y a longtemps.
Non.
À l'hôpital, à nous vacciner contre la tuberculose, on est obligé, on le fait. Moi, j'ai confiance en médecins, j'ai confiance en ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Bon, et puis voilà, on arrive à soigner des cancers, on peut bien leur faire confiance sur des vaccins quand même.
Non, absolument pas.
Roger, pardonnez-moi, je vois que vous avez 75 ans.
Oui.
Est-ce que vous êtes vacciné ?
Alors non, certainement pas. Et si on veut me vacciner, il faudra me vacciner.
Oui, de force, j'ai bien compris. Roger, et si vous l'avez, le Covid ?
Mais je l'ai eu.
Ah, vous l'avez eu et vous avez eu une forme légère.
Mais quand je l'ai eu, figurez-vous, et ma femme aussi, c'était en février 2020, hein, et on nous a dit qu'on avait une grippette à l'époque.
Parce qu'à l'époque, on ne savait pas tout ça. Mais aujourd'hui vous savez... Mais Roger, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir de nouveau. Ben vous êtes prêt à courir le risque ?
Mais alors, la grippe, on peut l'avoir tous les ans.
Non, mais ce n'est pas une grippe.
Ben, c'est pas une grippe.
Laetitia.
Vous prenez tout à la légère. Parce que je travaille à l'hôpital, moi, je vois ce que ça donne. Hein. Vous voyez, ce n'est pas toujours une grippette. Hein. Je peux vous l'assurer. Hein.
Oui, puisque vous travaillez en réa, Laetitia.
Dans tous les morts qui sont morts soi-disant du Covid, hein, je sais... pertinemment, parce que j'en ai des exemples, que des gens ont été déclarés morts du Covid, alors que ce n'était pas le Covid qu'ils avaient.
Oui, mais il y a aussi des gens qui sont morts du Covid et qui n'ont pas été déclarés morts du Covid parce qu'ils n'ont pas été répertoriés à ce moment-là. J'aimerais introduire Antoine dans la conversation. Pardon, Roger. Bonjour, Antoine.
Oui, bonjour.
Vous êtes auxiliaire de vie, vous nous appelez de Vendée, et vous non plus, vous ne voulez pas vous faire vacciner ?
Alors, moi, je suis dirigeant d'une structure de service à domicile. Je ne peux pas vous dire si je me fais vacciner ou pas. Je considère que ça relève du secret médical. Comme je ne le demanderai pas à mes salariés d'ailleurs, hein, parce que pour moi, on ouvre une porte de Pandore. Aujourd'hui, on va leur demander ça. Moi, quand j'ai un salarié en arrêt de travail, je n'ai pas à connaître de la raison. Les gens habilités pour ça, ce sont la médecine du travail. Et donc, j'aimerais pas avoir une remise en cause. Aujourd'hui, on a un secret professionnel, secret médical, qui a volé en éclats. Et je trouve ça dramatique. Aujourd'hui, c'est pour le Covid. Demain, ce sera pour la grippe. Et après-demain, pour le virus du SIDA et que sais-je.
Donc, mais il y a déjà des vaccins obligatoires pour les soignants. Antoine, il y en a 4.
Écoutez. Les vaccins obligatoires, je le sais, je les connais et je suis vacciné. Je vous rétorque que la seule raison pour laquelle je ne veux pas, en tout cas, ni embêter mes salariés avec ça, ni moi-même me soumettre, c'est que pour l'instant, on est en phase observatoire. C'est la troisième phase. Cette phase...
On n'est plus en phase observatoire.
Si, on est en phase d'observatoire jusqu'en 2022 pour le Moderna, jusqu'en 2023 pour le Pfizer. Je suis désolé, pour l'instant, lorsque vous faites vacciner, vous signez une décharge pour laquelle vous engagez, vous ne pourrez pas vous retourner contre le laboratoire pharmaceutique. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs...
Comment allez-vous faire alors, Antoine, dans les semaines qui viennent?
Ah ben je vais demander aux gens de prendre leurs responsabilités, à l'État, c'est l'État, à un employeur pour mon fils, si c'est un employeur, de dire je m'engage à assumer les conséquences éventuelles de la vaccination. On verra bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de mettre la pression aux gens. Aucun problème. Moi, je vous le dis, hein, dès que le vaccin a terminé sa période, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre un médicament dont toutes les phases ne sont pas terminées.
Mais on manque de données uniquement sur l'immunité, sur la durée de l'immunité aujourd'hui. C'est tout.
Madame, le médiator, on manquait de quoi ? Il a fallu qu'une pauvre médecin toute seule rame et se batte. Le médiator, c'est venu combien de temps après ? Vous pouvez comprendre que c'est tout nouveau. Le vaccin est nouveau, il n'a pas 2 ans.
Les scientifiques disent qu'on le sait assez vite s'il y a des effets secondaires qui sont vraiment graves.
Les scientifiques, je ne sais pas comment, mais en tout cas, je peux vous dire que au début de la crise, le masque ne servait à rien. Maintenant, il est obligatoire. Il n'y a pas 6 semaines de ça, l'Assemblée nationale refusait de voter le pass sanitaire au motif qu'on ne pouvait pas être gêné dans notre vie quotidienne. Je constate qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous ont promis mordicus, donc je ne peux pas faire confiance
qui
retournent leur veste en permanence.
Depuis le départ. Laetitia, vous êtes toujours en ligne avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Antoine ?
Je voulais lui dire quelque chose. Quand on a trouvé comment opérer des cœurs ou des cerveaux ou n'importe quoi, c'était tout nouveau. Et pourtant, on leur a fait confiance pour sauver des gens.
Parfaitement, sauf que je ne risque rien. Je ne risque rien pour la Covid. Je ne risque rien. Je n'ai pas de facteur.
J'ai eu des gens qui sont morts autour de moi, monsieur. Donc,
je crois quand même que les morts se situaient beaucoup au-dessus de 80 ans. Sachant que j'en ai 46 et que j'ai à peine 5 kilos de surpoids, écoutez, permettez-moi de prendre le risque de mourir de la Covid. J'en prends le risque au moment où je vous le dis.
C'est toujours chez les autres. C'est comme quand on prend le volant pour rouler, c'est toujours les autres qui vont se planter, jamais nous.
Non, c'est pas vrai. Voilà. Je ne parle que de ma personne, je n'engage pas la responsabilité des autres personnes. Les autres personnes, je ne leur interdis pas soyons clairs, un, je ne suis pas anti-vaccin, je suis à jour de mes vaccins, et deux, je n'interdis personne et je ne juge personne parce qu'il se fait vacciner. J'ai moi-même, dans ma propre famille, parmi mes enfants, certains qui ont cédé à la pression. Donc j'aimerais simplement qu'on ait le même regard, la même tolérance, hein, tous ces gens qui prennent la tolérance, eh bien, d'arrêter d'abord, un, de mentir. Je ne suis pas anti-vaccin, et beaucoup de gens ne sont pas anti-vaccin. On demande le temps de pouvoir s'y mettre, c'est tout, et de respecter le délai de mise en service. Maintenant, il est évident que si demain, je développe une maladie extrêmement grave et qu'on me dit, monsieur, il y a un médicament, on le tente, on n'est pas sûr. Évidemment, c'est ça la phase expérimentale.
La phase expérimentale, là, je vous dis, on manque juste de données sur la durée de l'immunité. La phase expérimentale, elle est terminée. Non, mais c'est pas tout à fait la même chose, la durée de l'immunité et les effets secondaires.
d'observation et elle n'est pas complètement close. Donc, je suis désolé.
Tant que tout le monde ne se sera pas fait vacciner, on ne s'en sortira pas de toute façon.
Vous aurez confiance dans combien de temps, Antoine ? Antoine, juste une question. Vous aurez confiance dans combien de temps ?
Ah mais j'aurai confiance quand toutes les phases seront terminées. Là j'ai plus de problème si vous voulez. De toute façon j'aurai pas le choix. Je suis bien vacciné contre l'hépatite B, donc il y a aucun problème. Je dis simplement que là on est dans la dernière phase qui est celle d'observation. Oui. Et ben qu'on nous laisse la terminer ou alors qu'on enlève ces clauses d'irresponsabilité des laboratoires pharmaceutiques. Arrêtez de faire signer des décharges. Dans ces cas-là il y aura plus de problème.
Bon, hein, merci
mais
en tout cas.
Ne me forcez pas à prendre un médicament et me faire signer une décharge après, ça n'a pas de sens.
Oui, Laetitia, juste pour conclure rapidement.
Ouais, oui, parce que là je vais travailler. Ben moi la seule espérance que j'ai, c'est que tout le monde se va vacciner pour qu'on reprenne une vie normale, parce que la vie comme ça, elle est plus possible. Quoi. Voilà.
Bon, merci à vous deux. Merci. On fait une petite pause. On va accueillir Stéphane dans un instant, puis on va clore ce dossier, puis on va partir un peu dans l'espace.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole.
Avec Christelle Rebière. Comme. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Rebière.
Et le débat est animé aujourd'hui autour de la vaccination obligatoire des soignants. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Vous nous appelez de Thionville. Alors vous comprenez les réticences ?
Oui, je peux comprendre les réticences. Simplement, j'ai eu un petit problème ce matin en écoutant votre radio. Il a été dit que cette fameuse phase 3 était en cours.
Oui.
Donc je me suis demandé ce que c'était que cette phase 3. Mm. Alors, il a été dit également qu'il n'y avait que 3 phases.
Oui.
Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai pris mon petit téléphone et puis j'ai regardé. Donc j'ai été voir sur le site Vaincre Alzheimer. Donc je pense pas que ce soit un site complotiste. Et sur le site Vaincre Alzheimer, il y a différentes phases. La phase 1 qui permet de tester la tolérance du médicament, qui est assez rapide. La phase 2 qui mesure l'effet thérapeutique. Et la phase 3, la fameuse phase 3. Ils disent que la phase 3 est indispensable pour démontrer l'efficacité du médicament par comparaison avec un placebo. C'est-à-dire un médicament sans principe actif. Lors de cette phase, personne ne sait quel traitement il reçoit. Lors de cette phase, personne ne sait quel traitement il reçoit. Ni l'équipe de recherche, ni les participants à l'étude. On écarte ainsi tout effet placebo.
Mais là, pardon Stéphane, mais vous nous parlez d'Alzheimer ?
Non, ce sont les différentes phases qui sont appliquées à tous les médicaments qui sont mis sur le marché.
Ah, les médicaments ?
Tous les médicaments.
Là, on parle de vaccins, ce n'est pas tout à fait pareil.
Les médicaments, le vaccin subit les mêmes tests.
Oui.
Tous les médicaments qui sont mis sur le marché subissent le même test. Mmh. Donc la phase numéro 3, la troisième phase, correspond à une mise en place avec des placebos. Donc, on nous dit il y a 30 milliards de personnes vaccinées. Très bien, super. Sur les 30 milliards, combien y a-t-il de personnes
3,
qui
3,
ont reçu
3
un
milliards, je pense, ça va faire pas mal déjà. 3 milliards, oui.
3 milliards, c'est bien.
On n'est que 7 milliards, on est déjà très nombreux. Hein.
Effectivement. 3 milliards, pardon. Donc 3 milliards de personnes vaccinées. Sur les 3 milliards de personnes vaccinées, combien ont reçu un placebo ?
Mais il y en a déjà eu dans les premières étapes des placebos, Stéphane. Bah oui.
Mais dans un très très court laps de temps. Absolument très très court. Et il est indiqué également, je ne veux pas vous lire tout le truc.
Non, bah, moi je ne suis pas spécialiste. Hein,
il est indiqué que ces tests-là doivent se faire sur une durée suffisamment longue pour être pertinent. Ça doit être long, parce que ça demande du temps. Tout demande du temps.
Bon.
On ne peut pas accepter que tout se fasse en un temps record. Et surtout,
donc, une fois
accepter...
de plus, en fait, si je résume votre propos, Stéphane, vous êtes à peu près comme tous les auditeurs qu'on a eu avant et qui étaient réticents. Vous dites, on manque de temps, voilà, on manque de recul encore. Et moi, j'aimerais bien pouvoir attendre encore un petit peu, quoi.
Comme auditeur précédent, je suis vacciné, mes enfants sont vaccinés, mon épouse est infirmière. Elle nous surveille, elle vérifie que les enfants ont bien tous les vaccins. J'avais venu me chercher avec les dents pour que j'aille me faire vacciner contre le tétanos.
Mais vous êtes tous vaccinés là contre le Covid ou pas ?
Non,
pas encore.
COVID, non.
Ouais.
Mais nous ne sommes pas contre le vaccin de la Covid, il faut bien comprendre ça.
J'entends bien, j'ai bien compris que fondamentalement.
Samedi dernier, on a participé à la manifestation à Metz. Nous ne sommes pas des anti-vaccins, nous ne sommes pas des anti-vax, nous ne sommes pas des gilets jaunes.
J'entends bien, mais vous êtes sceptique et vous avez le droit d'être. Pardon Stéphane, je suis obligée d'écourter parce que la ligne était vraiment mauvaise. J'aimerais conclure cette séquence avec Vincent qui est dans les Alpes-Maritimes et qui est infirmier libéral.
Oui, bonjour.
Bonjour Vincent.
Bon, je fais aussi un coucou à ma collègue Laetitia.
Qui était à Limoges, oui.
Oh là là, je l'encense. Je ne sais pas si elle est encore en ligne. Mais
non, elle est partie.
Tant pis. Bon, non, je suis abasourdi. Bon, je comprends le dernier auditeur, je n'ai plus son prénom en tête. J'ai retenu
c'était
Roger.
Stéphane.
Stéphane, Roger, formidable. Et le directeur des auxiliaires de vie, aussi formidable. Je suis abasourdi, en fait. Je ne sais même plus quoi dire. Pour revenir sur les propos de Stéphane, je veux bien qu'ils prennent du temps. Mais au bout de 20 ans, l'ARN messager, en fait, ça fait 20 ans que ça existe.
Ben oui.
Le problème, c'est que, voilà, bon, aussi, il lui faut plus que 20 ans pour qu'ils comprennent. On ne pouvait pas, je ne suis pas sponsorisé, je suis infirmier en libéral dans les Alpes-Maritimes. Hein. Attention, mm-hmm. Je n'ai pas de sponsor, il n'y a pas de lobby ou il n'y a pas de truc. Justement, c'est ce que j'explique aux patients et c'est comme ça que je les ai convertis au vaccin. Et même les médecins, on fait tous pareil avec les pharmaciens. Tous dans la région, on leur explique tranquillement. Mmh. Et c'est vrai que des fois, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que médiatiquement, parfois, il y a des incohérences parce que.
Mais c'est compliqué parce que parfois, mais c'est vrai, les scientifiques ne sont pas. Mais oui, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Ils tiennent pas tous le même discours.
L'ARN messager, ça existe. Et en plus, c'est couillon. L'ARN messager, on en a plein. On en a là en ce moment pendant que je suis en train de vous parler, ils vont faire les glucides, les protides et les lipides. C'est couillon, c'est comme ça. Alors, Stéphane, regardez, c'est une fois la vie sur le vaccin, vous savez, un vieil dessin animé, comme ça, c'est rigolo. Et il verra ce que c'est. Et en même temps, l'ARN messager, ça fait très longtemps. Le problème, c'est que on n'avait pas. C'est exceptionnel ce qui nous arrive. Mmh. Ce virus, il est exceptionnel. On le gardait comme ça au frigo et on dit « Oh, ça y est, on peut le sortir ». Tac, on fait la cartographie du virus, clac, clac, copier-coller, ça y est, on y va. On fait les tests, ça a duré, allez, 9 mois, 10 mois. Sur les tests, comme il est en train de dire, là, sur 3 milliards, on n'a pas fait ça, c'est 3 milliards. Mais ça marche. Je suis vacciné depuis le mois de mars et regardez, je vous appelle, je suis toujours vivant, toujours debout. Et je l'ai fait par conscience. Parce que ça aussi, j'ai entendu le premier intervenant, le kiné, c'est « change de boulot alors ». Mince, on est professionnel de santé. C'est bon, ironiquement, oui, bien sûr que c'est pour nous, mais c'est pour les autres aussi.
Non, mais j'entends bien, mais le débat est très vif. On sent qu'on touche à quelque chose de très intime. Et c'était assez intéressant de vous entendre les uns et les autres. Merci beaucoup, merci Vincent d'être intervenu. On va changer de sujet, on va parler de tourisme spatial. Rebonjour Sophie Jousselin.
Rebonjour Christelle, rebonjour à tous.
C'est notre spécialiste du tourisme spatial et pas que. A tout de suite.
Jusqu'à 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Rebière.
Si les abandons d'animaux vous révoltent, sachez que la SPA déborde. Hein. C'est un été absolument incroyable. Cette année, il y a notamment beaucoup, beaucoup de chats qui sont abandonnés. Dans quelques minutes, on sera avec le président de la SPA. Et je compte sur vous, sur vos témoignages au 3210. Mais d'abord, l'espace. Après Richard Branson, Jeff Bezos décolle donc à 15h. Est-ce une affaire de milliardaire ou une nouvelle conquête? Est-ce qu'on va vraiment vers un tourisme de l'espace? Est-ce que ça vous fait rêver ou pas? Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Christelle.
Soyez le bienvenu, vous nous appelez des Alpes de Haute-Provence à Josier.
C'est ça, merci. Oui, merci de me donner la parole.
Je vous en prie.
Sur ce sujet.
Alors...
J'ai écouté le sujet précédent, c'était très intéressant d'ailleurs.
Oui.
Bon voilà, mais je ne dirai rien. Voilà, oui, ben moi écoutez, j'ai 70 ans, donc j'ai eu la chance de voir l'alunissage à la télévision. Hein. Donc,
en 1969
En 69, oui, puis voir toute la préparation, parce que j'étais plus jeune, mais bon, ça m'intéressait beaucoup. Et moi, je suis ingénieur, je suis physicien, en fait, si vous voulez, et j'aime beaucoup, je vais pas dire passionné, mais enfin, j'aime beaucoup l'astrophysique, et plutôt théorique, si vous voulez, mais moi, bien sûr, j'aimerais aller sur Mars, j'aimerais aller dans l'espace, et puis j'aimerais si les trous de ver existaient, bien passer dans une autre galaxie, vous voyez, donc tout ça, ça fait rêver, parce que moi, au-delà des planètes et des choses comme ça, si vous voulez, je pense au devenir de l'univers, et j'ai toujours soutenu la conquête spatiale, parce que c'est très controversé, on dit on met de l'argent là-dedans, mais de toute façon, ce sera...
Bernard, est-ce que là, vous vous verriez dans la capsule avec Jeff Bezos, là tout de suite?
Non.
Non, pourquoi?
Ah ben voilà, alors, je vais vous dire ça très simplement. D'abord, si vous voulez, encore, je disais, je soutiens toujours la conquête spatiale parce que je trouve que c'est le devenir de l'humanité, peut-être. Voilà, oui, et puis le devenir de l'humanité. Oui. L'homme a toujours essayé. Regardez, il y avait Christophe Colomb, enfin voilà, et maintenant on parle de l'espace. Alors ça, d'accord. Ensuite, le tourisme de l'espace, pourquoi pas, si vous voulez, ça ferait une entreprise qui, à la limite, comme les bus ou les trains, quoi, si vous voulez. Et puis il y a des gens qui auraient les moyens qui iraient. Mais là, si vous voulez, voir un milliardaire se payer un joujou pour faire 3 minutes dans l'espace, ça me révolte énormément.
Je crois que c'est 10 minutes en fait.
Oui, mais c'est 3-4 minutes. Oui, enfin, c'est 3-4 minutes en apesanteur.
3-4 minutes en apesanteur.
Vous voulez dire 3-4 minutes, ouais, il monte, mais bon, il est que 3-4 minutes en apesanteur, il est content. Voilà. Et puis ça a coûté, je ne sais même pas combien, si vous voulez.
Sophie,
et
ça, combien ça coûte ?
Le billet, normalement, c'est autour de 200-250 000 dollars le billet. Bon, et là, le vol.
250 000 dollars.
Voilà. Mais,
pour le billet, pour le touriste.
Jeff Bezos explique qu'il met à peu près 1 milliard par an dans sa société Blue Origin. Donc, vous voyez, ça coûte effectivement très cher.
Voilà, et donc il se paye un petit voyage tranquille, quoi. Voilà, bon, après tout, il y a l'argent, mais moi je trouve que cet argent, ce serait beaucoup plus noble de le dépenser pour d'autres sujets de la planète, par exemple la malnutrition. Enfin, on ne va pas tous les lister. Et ça, je ne suis pas.
Non, mais on pourrait peut-être l'utiliser autrement dans la conquête de l'espace, Sophie.
Oui, mais après ce que fait Jeff Bezos là aujourd'hui, c'est vrai que on n'apprend pas grand-chose sur le plan scientifique. Effectivement, on sait faire.
Ça n'a aucune valeur scientifique.
Non, ça n'a aucune valeur scientifique. Ça n'a aucune valeur sur le plan technique, en quelque sorte, parce que monter à 100 km et redescendre, on sait faire. Après, c'est vrai que Jeff Bezos, pour lui, c'est un moyen aussi de tester ses fusées, parce qu'il a d'autres ambitions. On en a parlé dans le journal de 12h30. Lui, ce qu'il rêve, c'est de construire des colonies autour de la Terre pour y déporter les industries les plus polluantes. Bon, ça, c'est à l'horizon de plusieurs centaines d'années. Mais Jeff Bezos.
Non, mais c'est possible ou c'est juste un gros délire ?
À l'horizon de plusieurs centaines d'années, on peut dire que tout est possible, mais ce n'est pas dans l'immédiat.
Je ne sais pas si on m'entend, là, mais...
Oui, Bernard.
Oui, moi, c'est un gros délire. Et c'est ça qui me choque énormément. Si vous voulez, ce qui est choquant, bon, bah, de toute façon, c'est sur la planète. Je veux dire, si tous les pays mettaient leurs efforts en commun, on serait déjà allé sur Mars, vous voyez, par exemple. Parce que chacun fait un truc dans son coin.
Mais justement, Elon Musk, lui, il voudrait coloniser Mars.
Non, mais
Sophie... Attendez, Bernard, je vais vous laisser la parole après.
Bien sûr qu'Elon Musk, bon, il a promis qu'il irait sur Mars en 2024, mais c'est pas vrai, il ira jamais, pas en 2024.
Non, c'est trop court, là.
Après, pour revenir à Bezos, il vise aussi la Lune. Il a une ambition lunaire qui semble déjà un peu plus proche de nous, avec la NASA. Bon, la NASA l'a pas choisi pour l'instant, elle a préféré Elon Musk, mais bon, en revanche, si on prend Richard Branson, il ne veut faire que du business.
C'est le patron de Virgin.
C'est le patron de Virgin, celui
qui a fait
qui
la
parti,
même opération
voilà,
il y a 15 jours.
Voilà, qui est parti le 11 juillet. Lui, il a vraiment qu'un objectif, c'est de faire de l'argent en emmenant des gens faire un petit vol comme il a fait la semaine dernière. Il n'a aucune autre idée derrière.
C'est un super manège. Quoi.
Voilà, c'est un super manège. Enfin, voilà, il fait vraiment ça pour l'argent. Il n'a pas d'autres ambitions au-delà pour l'espace. Mm. Ce qui n'est pas forcément le cas de Jeff Bezos. Alors, il a des délires qui sont un petit peu qui nous semblent un peu surréalistes, mais il est déjà intéressé par la Lune, il bosse avec la NASA, donc bon, c'est pas tout à fait, ils sont pas dans la même cour pour l'instant. Mmh.
Restez avec nous Bernard, il y a aussi Patrick qui souhaiterait intervenir. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Christelle, c'est Patrick. Oui. Donc oui, je voudrais intervenir aussi sur ce tourisme spatial.
Oui,
là.
Pour ou contre ?
Et je rejoins aussi Bernard sur sa fin d'allocution qui dit... Pourquoi dépenser tant de fric dans ce genre de tourisme alors qu'il y a tant de misère sur la planète, quoi.
Oui.
Pour moi, c'est scandaleux.
Oui.
Scandaleux. C'est l'étalage de la richesse de certains milliardaires qui s'autorisent tout parce qu'ils sont pleins de fric. Quoi.
Il y a peut-être aussi un problème de pollution, Patrick, non ?
Ah oui, ben j'y venais. C'était ma première idée.
Oui.
C'est comment on nous bassine avec la pollution alors que la planète n'en peut plus. Et là, voilà, c'est un gros problème de pollution. Oui.
C'est vrai, Sophie Jousselin, c'est quand même très très polluant ça.
Ah, bah, c'est très polluant. Après, là, il y a très peu de vols, donc ça a un impact qui est complètement insignifiant pour l'instant. Mais oui, quand on sait que Branson veut emmener environ, veut faire 400 vols par an, et il a un système de, pour aller dans l'espace qui est complètement différent, puisqu'on décolle avec un avion gros porteur. Et effectivement, en plus, Branson a les engins les plus polluants pour ce genre d'opération. Et lui, il veut vraiment, je vous dis, 400 par an. Donc oui, si ça se multiplie, effectivement, ce serait extrêmement polluant. Il n'y a pas de doute, on ne va pas se mentir.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Bernard ? Oui, pardon, Patrick, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose ?
C'est bien ce que je disais, il y a des gens qui s'autorisent tout parce qu'ils sont plein de fric, excusez-moi l'expression. Mais ouais.
On sent bien que le côté milliardaire vous révolte un peu. Bernard ?
Oui, alors moi, je rejoins un petit peu ce que dit votre auditeur, parce qu'on pense la même chose. Mais en fait, si vous voulez, moi, je trouve même ça pathétique, si vous voulez. C'est pathétique parce que, lancer des trucs pour que les gens y fassent 5 minutes en apesanteur, c'est franchement... Alors que maintenant, on a été capable d'aller sur la Lune, on envoie des satellites, comme par exemple, j'ai oublié le nom, Surveilleur, je crois, là, qui est je ne sais pas combien. Donc, ça fait absolument pas avancer la science, d'un iota, voilà. Et aussi bien même Jeff Bezos, d'ailleurs, hein, bon, je ne sais pas s'il travaille avec la NASA, mais je ne sais pas à quel niveau il travaille avec la NASA. Moi, je pense qu'il faudrait cet argent-là, à la limite, s'ils ne veulent pas le mettre pour la malnutrition dans le monde, ça me touche, ou autre chose, mais à ce moment-là, qui participe un petit peu aux travaux de la NASA ou aux travaux d'autres organismes qui travaillent sur la conquête.
Mais ils le font déjà. Elon Musk emmène les astronautes dans la station spatiale. Elon Musk travaille avec la NASA pour aller sur la Lune, donc ils le font déjà. Il y a depuis longtemps, la NASA fait des partenariats privés, publics, pour la conquête de l'espace.
Mm-hmm. Oui, mais je voudrais bien savoir le pourcentage de leur fortune qu'ils mettent là-dedans par rapport, par exemple, à Jeff Bezos. Le pourcentage,
vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose, à mon avis.
Ben voilà, c'est-à-dire que c'est que dalle, quoi. Alors comme ça, ils se donnent bonne conscience, ils mettent 1% de leur revenu comme ça à la NASA, ils disent « Oh, je travaille pour la NASA », puis par contre, ils dépensent plein d'argent pour faire un joujou. Voilà, non, un joujou de gamin pour aller faire un petit tour dans l'espace et pour dire « J'y suis allé ». Et ça me... Si vous voulez, c'est pas comme ça que la planète progressera.
Oui, j'entends bien.
Parce que je pense qu'à terme... Bon, je dis, je ne serai plus là pour qu'on puisse confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. À terme, il faudra peut-être quitter cette planète pour aller dans une autre planète. Et grâce à toutes les recherches qu'on aura pu faire, on pourra le faire. Et là, on est en train de retarder.
Pardon de vous interrompre, Bernard. J'aimerais bien qu'on donne la parole aussi à Jean-Claude qui vient de nous appeler. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Christelle.
Ça vous fascine ou pas alors ?
Oui, ça me fascine. Ça me fascine, mais à 74 ans, je n'ai pas l'ambition d'aller dans l'espace.
Vous avez le droit de rêver.
Mais oui, Wally Funk, qui part avec Jeff Bezos, elle a 82 ans, donc vous pouvez.
Mais j'ai rêvé dimanche soir, figurez-vous, parce qu'il était 23h46, et de l'île aux Moines, je ne sais pas si vous situez l'île aux Moines dans le Nord du Morbihan.
Très très bien, c'est magnifique ce coin-là.
Okay. Eh bien, nous avons vu Thomas passer à 400 km de chez nous.
Ah oui.
Il était parmi les étoiles et on a vu grosse étoile brillante. Je ne sais pas, c'était probablement ses panneaux solaires. On l'a vu passer pendant 6 ou 7 minutes. Il partait vers l'Allemagne, il venait de l'Atlantique. Et là j'ai rêvé comme un petit garçon.
Ah, c'est beau. Bah ça fait plus rêver que Jeff Bezos, en fait. Hein.
Mais tout le reste, c'est cette histoire d'argent, d'aller 5 minutes dans l'espace, bon, pourquoi pas, hein, je laisse le soin à tout cela de pouvoir assouvir leur envie, peut-être pour paraître un petit peu plus. Mais moi, j'ai rêvé dimanche soir, c'est le témoignage que je voulais vous apporter.
Eh bien, il était formidable, votre témoignage, vous avez bien fait de faire le 32-10. Merci Jean-Claude, vous nous avez emmené dans votre rêve aussi. Merci Sophie.
Je vous en
merci
prie,
Christelle.
À très vite, on fait une petite pause, on change complètement de sujet, on parle des abandons d'animaux. Cet été, c'est assez dramatique, on sera avec le président de la SPA et avec vous, bien sûr. Au 3210, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
On les aime, on les choisit et chaque été, l'implacable scénario se reproduit. On abandonne nos animaux de compagnie au moment des vacances, mais cette année, on bat carrément tous les records. Alors, on en parle avec vous, bien sûr, au 3210 et avec Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA. Bonjour.
Bonjour, Madame Rivière.
Comment expliquez-vous ce phénomène cette année ?
Sans doute en partie par le confinement. En fait, on a à peine plus d'animaux qu'en 2019. On ne compte pas 2020 parce que ça a été une année tout à fait particulière. Oui. On a une petite augmentation de 7%. Alors, c'est déjà beaucoup. Mais surtout, et c'est ce qui nous inquiète, c'est que nous sommes à saturation depuis la fin juin, alors que normalement, les autres années, on est à saturation autour de la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire autour du 20-25 juillet, au moment des grands départs en vacances, des quelques jours qui précèdent les grands départs.
Et alors justement, pourquoi cette saturation si précoce, à votre avis ?
Peut-être parce que les gens ont pris des animaux pendant le confinement, les ont achetés dans les animaleries sur Internet, et puis maintenant s'en trouvent encombrés, s'en trouvent embarrassés, et se sont pas posé la question de ce qu'ils allaient en faire.
Ouais, en fait, il y a eu un effet doudou.
Il y a eu certainement un effet doudou, on le voit avec ce qu'on appelle les NAC. Vous savez, les nouveaux animaux de compagnie, on a plus.
C'est quoi les, pardonnez-moi, c'est quoi les nouveaux animaux de compagnie ?
Les nouveaux animaux de compagnie, ce sont des souris, ce sont des lapins. On a énormément de lapins d'appartement que les gens ont pris dans des animaleries. Et là, pour le coup, ce sont des achats qui nous arrivent par dizaines, par centaines, parce que c'est vraiment l'effet doudou. On accepte de dépenser un peu d'argent pour faire garder son chien ou son chat.
J'imagine mais pas son lapin.
Culturellement, pour un lapin, on n'a pas envie d'engager des frais de garde. Et donc, on s'en débarrasse, on le donne à l'SPA. Je dirais que entre deux mots, ce qui est encore le moindre, parce que nous, on va s'en occuper, on va les garder, on va les donner à l'adoption. Mais c'était évidemment bien mieux que de les abandonner au bord de la route.
Mmh. Et cette année, vous avez aussi beaucoup de chats ?
Oui, absolument. Alors, il y a un phénomène, je dirais qu'il y a un petit rayon de soleil dans cette difficulté. C'est que, je vous le disais, on a 7% d'augmentation, c'est-à-dire des chiffres qui sont quand même assez stables. Mais on a 25% de chats en plus.
C'est énorme.
Comme je vous le disais, 25% de petits animaux, de nouveaux animaux de compagnie. Le petit rayon de soleil, c'est qu'on a corrélativement à peu près le même pourcentage, 25% de chiens, en moins. Mmh. Alors qu'on s'imagine toujours que c'est plutôt le chien qui est abandonné. Cette année, c'est l'inverse. Alors, je pense que là aussi, il y a un phénomène qui est celui de l'absence de stérilisation. Hein, vous savez, les chats sont extrêmement prolifiques. Il y a un chiffre que je cite toujours quand j'en ai l'occasion. C'est celui qui veut qu'un couple de chats bien nourri, bien protégé, est capable, en 4 ans, de donner plus de 20 000 descendants.
Ah,
ce qui
oui.
veut dire que lorsque ce qu'on appelle les chats de gouttière, les chats des rues, les chats libres, ne sont pas stérilisés par les associations, par les mairies, nous, on fait beaucoup de partenariats tous les ans, eh bien, il y a une énorme prolifération. Mmh. Ce qui veut dire, en fait, que les gens, je pense, nous amènent des chatons, nous amènent des portées qu'ils ont trouvées dans leur jardin, dans leur garage, qui ne sont pas forcément, je dirais, des abandons au sens familial du terme.
Oui, mais ils n'ont pas anticipé le problème. On va accueillir Yannick, qui a fait le 32-10. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous nous appelez des Vosges, vous êtes un ancien de la SPA ?
Oui, j'ai travaillé quand j'avais 18 ans, donc il y a déjà 33 ans.
Oui.
Donc à l'époque, je ne sais pas si maintenant ils le font encore, mais à l'époque, dans le centre SPA que je travaillais, ils euthanasiaient eux-mêmes les animaux. Donc c'est très difficile de travailler, quand vous voulez, le bien aux animaux, de travailler dans un endroit où vous savez que il arrive un moment où on dépassait le quota et la journée où je devais prendre mon jour de congé, on m'a dit non, je me levais à 10h, on m'a dit non, on doit euthanasier 56 chiens.
Ouf. Ouais. Est-ce que ça existe encore, ça, Charles Fonbonne Jacques-Charles Fonbonne, pardon.
J'ai une question pour Yannick. C'était à quel endroit ?
Dans les Vosges, à Brouvelière. Je ne sais pas si vous êtes partie de la SPA, je crois qu'elle était indépendante.
Non, justement. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de nombreuses associations qui portent le nom de SPA, mais qui n'appartiennent pas à la Société protectrice des animaux, je dirais, que je préside, qui est la plus grande et la plus connue, tout simplement parce que la marque, pour parler en termes commerciaux, n'a pas été protégée au 19e siècle. Donc, excusez-moi, c'est pas chez nous. Et alors, je vous apporte une autre précision.
Les animaux ne sont pas euthanasiés chez vous ?
Non,
statutairement, nous refusons d'euthanasier les animaux, sauf pour des causes médicales incurables, c'est-à-dire quand les animaux souffrent, qu'ils ont des cancers généralisés, là on les endort effectivement, mais c'est à peine quelques dizaines par an, et on s'y refuse obstinément. Les animaux qu'on ne peut pas donner à l'adoption, eh bien on les garde dans nos refuges, c'est des refuges comme leur nom l'indique.
Et est-ce que, de quelle manière sont punis les abandons aujourd'hui ?
Alors l'abandon, c'est l'infraction la plus grave du code pénal en termes de maltraitance faite aux animaux. C'est une infraction délictuelle, c'est-à-dire que c'est le tribunal correctionnel, c'est-à-dire que si vous êtes condamné, c'est une inscription au casier judiciaire avec éventuellement l'impossibilité de rentrer dans la fonction publique, d'exercer certaines professions. Pour le moment, c'est une infraction qui est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Et vous le savez peut-être, il y a une loi, je vais au Sénat avec d'autres associations après-demain, il y a une loi qui a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale et qui va passer au Sénat, et où il est question de considérablement durcir cette infraction, qui est déjà, comme je vous le dis, très sévèrement réprimée.
Ah mais elle n'est pas appliquée,
Yannick. Pas encore.
Elle est rarement appliquée.
Ah oui.
C'est tout le problème.
Si, elle est appliquée, mais si vous voulez, c'est la décision des juges du fond, c'est-à-dire les juges du tribunal correctionnel. Il n'y a pas de peine plancher, ils appliquent la peine.
Après, que ce soit les abandons ou la maltraitance animale, elle ne s'est pas appliquée du tout par les textes de loi. Ils disent c'est temps en temps, mais c'est jamais appliqué. Regardez une personne qui prend son chien et qui jette par la fenêtre. Moi, je trouve qu'on devrait faire pareil. Le policier arrive, il le jette par la fenêtre. Comme ça, il va savoir ce qu'il a fait à son chien.
Bon, c'est pas forcément la solution du droit pénal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la règle dans toutes les infractions pénales. On juge une infraction, mais on juge également la personne qui a commis l'infraction. Alors c'est vrai que, sauf en cas de récidive, sauf en cas véritablement de maltraitance particulièrement cruelle, moi je n'ai jamais vu de condamnation à de l'emprisonnement. En revanche, sachez-le, la SPA s'est constituée partie civile l'an dernier pour plus de 450 actes de maltraitance, et on a gagné toutes les fois.
Bon, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à Yannick d'avoir témoigné. Merci à vous, Jacques-Charles Fonbonne, d'avoir tiré un peu le signal d'alarme sur tous ces abandons cet été auxquels la SPA doit faire face. J'aimerais qu'on finisse cette émission comme on le fait chaque jour, avec une petite note de musique et votre chanson de l'été préférée. Bonjour Pierre.
Bonjour madame.
Soyez le bienvenu. Vous êtes étudiant en prépa à Besançon.
Ma prépa est en région parisienne, mais je suis en vacances à Besançon actuellement, oui.
Alors, quelle est votre chanson ?
Alors, ma chanson, c'était une chanson d'un chanteur italien, il me semble des années 90, plutôt disco, je dirais. Je ne sais même pas si elle était...
On l'écoute. Vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, vale idea, maliziosa ma saprà tenere a bada un super. Alors là, je découvre, vous me faites découvrir une chanson. Pino D'Angio, je ne connaissais pas, Pierre.
Oui, effectivement. Alors, ça doit être des années 90, il me semble. Je ne sais même pas.
Oui, enfin, j'étais né.
Alors, on est même en 1981 pour ce titre.
1981 en plus.
Ça sentait un peu le côté, effectivement, un peu disco quand même. Rapidement, qu'est-ce que ça vous évoque, Pierre ?
Ah ben, je sais pas, quelque chose de festif lié à un pays comme l'Italie qui avait quand même bien besoin de fêter parce qu'ils en boivent beaucoup ces derniers temps, et c'est quand même vraiment un très beau pays, une très belle culture. Vraiment, c'est un pays où ça évoque la fête, la dolce vita, si vous voulez. Et ça me semblait intéressant maintenant que l'été est enfin arrivé et qu'on a un peu de soleil. C'était pas mal. Ouais, aussi la fête, il me semble que c'est dans une soirée plus ou moins où une boîte, apparemment, il part de danser. C'est assez festif, je vais dire, de ce qu'on pourrait bientôt pouvoir faire.
Eh ben, ça nous fait du bien. Merci Pierre pour ce cadeau venu du début des années 80. Un petit cadeau vintage, ça fait du bien. Et ça fait toujours danser. Merci Pierre, je vous souhaite un bel été.
Merci beaucoup, madame. Vous
merci.
Aussi, j'espère rappeler pour d'autres sujets. Comme
mais quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas, vous êtes le bienvenu chaque jour au 32-10. Comme vous tous qui avez fait cette émission, c'était particulièrement intéressant aujourd'hui, puis un peu musclé aussi, comme on aime. Soyez heureux jusqu'à demain. Belle journée à vous.
Les auditeurs ont la parole avec Christophe.